Il est 18h18. Radio
Star.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène au Maroc ce soir à la rencontre des mères célibataires laissées à la rue par leurs parents, par leur famille, et vous verrez qui s'occupe d'elles et de leurs bébés. 18h35 sous les radars en Belgique, en Algérie avec des blouses blanches et en Corée avec un bitcoin bien mal en point. 18h45 les médias en 360 degrés avec Alexandra Akoun, notamment la première grande interview de Barack Obama depuis qu'il a quitté le pouvoir. 18h55 l'édito du journal Le Monde avec une Californie un peu paranoïaque, et quoique ce sera avec Corinne Lenne. Mais pour commencer, deux choses. Nous balayons ensemble l'année 68 dans le monde aujourd'hui, le marqueur d'il y a 50 ans. C'est le premier coup de projecteur, parce qu'on y reviendra forcément, à cette année-là qui a changé le monde. Et avant cela, qui est le lauréat du prix du livre étranger France Inter, le journal du dimanche, c'est maintenant.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Comme prévu, ouais, ce tour du monde du jour commence avec un rendez-vous qu'on est content d'accueillir dans Un jour dans le monde. Deuxième année, donc deuxième prix France Inter, le journal du dimanche pour le livre étranger. Bonsoir Augustin Trapenard.
Bonsoir ma chère Fabienne.
Ça me fait tout drôle de vous voir à cette heure-ci.
Moi aussi, c'est très étrange.
Oui, c'est bizarre. Vous voulez ma place
juste certainement pour, pas. Voilà. Je vous la laisse volontiers.
Marie-Laure Delorme, bonsoir aussi.
Bonsoir.
Pour le JDD. Avant de donner le nom du gagnant, quand même, j'aimerais bien qu'on refasse le tour des de ceux qui étaient dans la liste, parce qu'ils n'ont pas démérité, évidemment.
De
qui commence
liste,
Augustin.
Oui, il y avait 5 livres dans la liste étranger France Inter JDD, 5 très beaux livres. Je dois avouer qu'on a eu une très belle sélection cette année. On était très contents de la mettre en avant, et des livres qui répondent surtout à aujourd'hui, à cette grande interrogation qu'est les États-Unis. Je pense à 3 livres immédiatement, celui d'Harry Kunzru, celui de Louise Erdrich et celui de Paul Auster. Et 2 livres qui touchent à la question du genre qui a été partout aussi en ce moment, celui d'Arundhati Roy et celui de Maggie Nelson. Évidemment, on ne peut pas les réduire à ça, Marie-Laure, mais au moins ils résonnent.
Marie-Laure Delorme.
Tout à fait, c'est une liste qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire. Et si les discussions ont été vives, comme à chaque fois, on est tous très heureux du lauréat.
Eh ben, j'en profite, tiens, parce que dans le jury, non seulement il y avait vous deux, mais aussi Anne-Julie Bémont, Laetitia Favreau, Alexandre Fillon, Nicolas Demorand et Ilana Moriousseff, tous deux, bien sûr, de France Inter. Alors, Augustin, le gagnant est ?
Le gagnant est Paul Auster, pour son livre 4-3-2-1 aux éditions Actes Sud, dans une très belle traduction de Gérard Modal.
Alors, un grand Paul Auster, Marie-Laure Delorme, vous diriez ?
Oui, c'est le livre majeur d'un auteur important. Il invente 4 vies différentes à un même personnage, un jeune garçon du New Jersey de la classe moyenne américaine, et c'est un hommage au plaisir et aux forces de la fiction. C'est un portrait de l'Amérique des années 50 et 60, et puis c'est aussi un livre politique, puisque Paul Auster est un auteur engagé sur les richesses de l'immigration, et puis aussi sur la diversité de notre identité à tous.
Et ce qui résonne forcément aussi avec l'Amérique d'aujourd'hui, Augustin.
50 ans hein, d'histoire américaine, en fait, des années 20 aux années 70, c'est un monument, ce livre, Fabienne, plus de 1000 pages écrites en tout petit. Et je dois dire, pour ceux qui ne sont pas forcément amateurs de Paul Auster, je rejoins Marie-Laure, c'est un livre absolument majeur. Et c'est un livre long. Et je vais vous dire quelque chose, moi je trouve ça formidable. Aujourd'hui, à l'heure du tweet en 140 signes, à l'heure des tout petits livres qui paraissent, notamment dans le domaine français, nous voici avec un roman gigantesque, monstre, monde, qui va des États-Unis à la France. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi, Marie-Laure, un somptueux hommage à la France, ce livre.
Tout à fait, puisqu'on a coutume de le dire, c'est le plus francophile des écrivains
américains. Et francophone, d'ailleurs,
si on
peut le dire.
S'il est qu'on le dise. Mmh. Enfin,
tout
bon.
À fait, et Paris est omniprésent, puisque l'un des 4 Archibald Ferguson s'en va à Paris, alors que les 2 restent dans une université aux États-Unis.
4-3-2-1 comme 4 Ferguson, en fait. Que vous pourrez raconter avec lui, Augustin, puisque vous le recevez demain dans Boomerang, Paul Auster.
Quel plaisir, ouais. Effectivement. Demain, en direct, dans Boomerang, à 9h10, Paul Auster, lauréat donc du prix du livre étranger France Inter JDD. Ça va être une interview émouvante.
Eh ben, écoutez, on vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les deux. 4-3-2-1, Paul Auster, c'est chez Actes Sud, prix du livre étranger, France Inter, le journal du dimanche. Merci mille fois de votre petit passage.
Salut.
Merci.
France Inter. Un jour dans le monde.
Allez, San Francisco, Paris, Birmingham, Manchester, Tokyo, Prague, Mexico, Chicago. Un point levé aussi sur un podium olympique. Un candidat à la présidentielle américaine qui tombe sous les balles. Un leader noir qui tombe aussi sous les balles. Une offensive sanglante au Vietnam. 2001 Odyssée de l'espace. En haut des charts des hit parades, il y a Hey Jude par exemple. Et tiens, il y a ça aussi. Et Et j'ai choisi celle-là, le Mrs. Robinson de Simon et Garfunkel, parce qu'elle signe aussi une époque et qu'elle signe également 1968. Bonsoir Serge Julie.
Bonsoir.
Et bonsoir Patrick Mahé. Vous signez tous les deux, vous êtes tous les deux dans cet énorme livre qui s'appelle 68 années choc, dirigé par vous Patrick Mahé. Vous avez écrit un long passage, Serge Julie, pour, j'allais dire, célébrer, non pas forcément d'ailleurs, célébrer, commémorer, en tout cas montrer ce monde en fièvre qui monte en fait en cette année 68 partout dans le monde. Patrick Mahé, une année à la fois pop et tragique en fait. C'est aussi comme ça que j'ai lu votre livre et qu'on voit cette année-là. Il y a ces deux côtés-là.
Absolument. On la voyait monter, en fait, au départ des années 60. Il y a une formule que Serge va certainement développer, que j'ai bien aimé dans son texte, qui est justement l'invention de la jeunesse à cette époque-là. Et cette effervescence, elle est dans le monde entier. Mais le catalyseur, l'élément qui va être tragique, justement, c'est la guerre du Vietnam. En fait, c'est la guerre du Vietnam dans son abomination et dans les premiers grands reportages photographiques qui vont arriver et qui vont fédérer beaucoup d'énergie. On sait très bien qu'après l'offensive du Tet, par exemple, quand le beau-frère du président Johnson lui montre les premières photos, il s'effondre lui-même sur son bureau.
Et là, il a annoncé être candidat à la présidence.
Absolument. Et là, on a une photographie incroyable de Donald McCullin qu'on appelle le radeau de la Méduse, en couleur tragique justement, qui correspond à ce que vous dites sur la guerre du Vietnam.
Et c'est vrai que c'est Serge Julie, tout commence à Berkeley en fait. C'est vous qui le dites et qui l'expliquez, mais c'est vrai que c'est la guerre du Vietnam qui coagule tout le monde en fait.
Absolument, parce qu'il y a des manifestations dans le monde entier. C'est une faiblesse américaine. En plus, on connaît l'histoire de la guerre du Vietnam. C'est Lyndon Johnson avait hérité de la présidence, mais n'avait pas été élu démocratiquement. Il avait envie d'être élu. Et donc, il pensait se présenter pour les primaires de 68. Et il y a renoncé après l'offensive du Tet. C'était au mois de mars, je crois, fin mars, il renonce à se présenter. C'est ça la guerre du Vietnam. Hein.
Et une offensive du Tet dont on pense que c'est une victoire, alors qu'en fait c'est une défaite au final.
C'est une défaite.
C'est une sorte de victoire à la Pyrrhus, finalement.
Oui, elle est gagnée sur le terrain par les Américains, en fait, elle est gagnée. Mais il se trouve qu'il y a 4000 morts américains.
4000 morts,
et ces 4000 morts américains vont déclencher ce phénomène.
Plus l'année suivante, 69, les Américains ont 12 000 morts. Hein. On pense que ça s'arrête en fait 68, mais l'année suivante, il y a 12 000 morts américains, des GIs, qui meurent là-bas. Et donc, s'il y a un ensemble, il y a un complexe américain. Les États-Unis à la fois inventent la société de consommation avec tous ses aspects et ils sont incapables de résoudre la question des droits civiques. Incapables de résoudre ça. Qui va être le ferment un peu de tout ça. Parce que, par exemple, tous les mouvements étudiants sont aux États-Unis et par conséquent dans le monde entier, y compris en France, sont influencés par le pacifisme de Martin Luther King, des marches que font les étudiants blancs et noirs dans le sud. Et donc ça a formé toute une génération et cette génération pendant 10 ans va pratiquer jusqu'à ce qu'il y ait après des gens qui se mettent au terrorisme, mais va influencer des comportements très pacifiques.
Et un élément déclencheur aussi, c'est que à l'époque on croit que c'est une guerre d'engagés. La guerre américaine, avec des soldats engagés. Mais il va y avoir le draft, le fameux draft.
67, ça commence à 67.
Et effectivement, l'année d'avant. Soudain, la conscription touche tout le monde. Et ça explique cette révolte estudiantine sur les campus.
Alors, et cette révolte qui se manifeste quand même, et c'est ce que vous dites effectivement sur la manière dont ça s'est ensuite dispersé dans tous les campus, le Free Speech Movement, le début du Free Speech Movement, c'est là, en fait, c'est à ce moment-là.
C'est 64 à Berkeley, une université californienne qui, je le dis par rapport à tous les détracteurs de 68, est restée l'une des principales universités mondiales, 90 prix Nobel, etc. C'est parti de là. On peut dire que cette université a formé par ailleurs non seulement des mouvements étudiants planétaires, la lutte anti-guerre, mais en même temps, et sans doute avec Stanford, l'université qui a formé tous les leaders de la nouvelle économie, tous les leaders qui sont devenus sur l'Internet.
Un point de transmission qui relaye tout ce phénomène, parce que les campus, les étudiants, les grands professeurs, je sais pas, Marcus par exemple, etc., le relais se fait aussi par les artistes. Et les artistes vont entrer dans une ère où la chanson devient la protest song qu'on ne connaissait pas 2 ans plus tôt.
Oui, et puis les slogans, il y a beaucoup des slogans de 68 ou des années 60, parce qu'il faudrait parler plus fortement, je crois, plus justement, de la révolution des 60s. Ouais. Il y a beaucoup des mots d'ordre qui sont issus des chansons. We want the power now, c'est une chanson des Doors.
Vous le pouvoir maintenant.
All we need is love, c'est les Beatles, sont des mots d'ordre. Le mouvement hippie a vécu sur all we need is love.
Mais alors, est-ce que c'est quand même cette année 68 où qu'on se place dans le monde? Est-ce que c'est le début de quelque chose ou peut-être aussi la fin de quelque
chose?
C'est vers
la fin. C'est vers la fin. Je dirais pas que c'est la fin parce que ce qui va clore toute cette période, c'est 73. Hein. En 73, on change d'époque. Très violemment, de manière très forte. Je reviens pas là-dessus, c'est pas le sujet. 68, d'abord, c'est le dernier mouvement étudiant dans le monde, c'est la France. C'est pas, on n'est pas pionnier du tout. On vient après Berlin, Tokyo, les États-Unis, les campus américains, la Grande-Bretagne, l'Espagne. Et ça, il y en a partout. La France arrive en dernier. Alors, on peut dire que c'est vers la fin. Voilà. La France, et puis il se trouve que c'est ponctué par Prague, le monde communiste.
Et la révolution culturelle chinoise aussi.
Chinoise.
Et c'est pour ça que je vous demandais si c'était le début de quelque chose ou la fin de quelque chose. On voit Prague 1968, par exemple, à la fois, on est encore très tôt, évidemment, avant la fin du communisme, mais est-ce que c'est pas le moment où aussi on peut se dire, ah ben le communisme peut tomber?
Oui, parce que ça répond à une question qui est posée, évidemment, par les événements de Prague. Le communisme est-il réformable?
Ce que Budapest avait, enfin, ce qu'à l'époque, dix ans plus tôt, Budapest avait raté.
En l'occurrence, on connaît bien le processus de la Tchécoslovaquie. C'est Léonid Brejnev qui choisit Dubček au début janvier 68, puisque le début janvier 68, il y a à la fois le TET, et puis il y a en même temps les événements de Prague. Il choisit de mettre Dubček contre des conservateurs. Et il va échouer, ils sont obligés d'envoyer les chars, ce qui est un échec absolu,
et
évidemment.
Très vite d'ailleurs, parce que 5 janvier 68, ouverture de la liberté d'expression à Prague, tout de suite, donc pour Dubček.
Dubček vient d'être nommé avec l'appui de Brejnev, et ça va très très vite, ça ne dure que 6 mois.
Et on sait effectivement comment ça finit. L'autre marqueur peut-être, Patrick Mahé, Révolution culturelle chinoise, là pour le coup.
Absolument.
Photo magnifique d'ailleurs.
Oui, parce que là, dans cet ouvrage, il y a évidemment le texte leader de Serge Julie, qu'on pourrait qualifier de poids des mots d'ailleurs, et puis il y a cet ensemble incroyable de photographies, dont des photos inédites très très fortes. On se faisait la remarque tout à l'heure, Serge disait, beaucoup sont en noir et blanc. Le noir et blanc est très puissant dans le livre, très puissant. Mais sur le Vietnam, par exemple, on a de la couleur aussi terrifiante, qui vous saute à la gueule, carrément, quoi. Donc, c'est vrai que le Vietnam, pour ça, ça a été...
Celle-là que je vais décrire, on est à la radio, ce soldat complètement hébété, en fait, qui a fait le tour de l'Amérique. Cette photo a fait deux fois le tour du monde.
La plupart de ces photos ont fait le tour de l'Amérique. Ont été dans l'équivalent de nos 20 heures de la télévision, c'est-à-dire 18h et 18h30 aux États-Unis. Terrible.
Et c'est important de le dire aussi parce que c'est l'avènement du photojournalisme, cette période-là.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport aux 68 français, pas seulement donc étrangers, français, on voit apparaître sur le terrain donc des photographes comme Gilles Caron qui fera la photo incroyable de Cohn Bendit face aux policiers.
Et qui meurt au Cambodge.
Et qui meurt justement en Indochine très peu de temps après, Gilles Caron, dans des conditions absolument tragiques. Et puis, on voit des figures de la photographie iconiques comme Doisneau. Cartier-Bresson, il fait une photo d'un gars avec son béret basque, sa petite cravate, sa femme sur un tas de détritus. On croirait que c'est une photo de haut bombeur, quoi, disons. Et puis on voit Doisneau qui fait un chef-d'œuvre et qui est un inédit dans le livre en couleur parce que sa femme lui avait dit avant de partir, ne prends pas tes appareils traditionnels, il y aura peut-être des bousculades. Il avait pris un petit appareil avec des ektachromes et résultat, on a une des plus belles photos du livre en couleur, rue de Bussy avec cette Citroën qui est brûlé et les pavés sur le capot.
Je le disais tout à l'heure, c'est à la fois pop et sanglant, parce que sanglant, ouais. Effectivement, on a parlé de Bob, enfin, on a évoqué Bob Kennedy, Martin Luther King, les émeutes de Mexico, c'était on ne peut plus sanglant, etc. Et pop aussi, quand même, il faut se rappeler que ces années-là, c'est, ou cette année-là, c'est Pink Floyd, c'est Genesis, c'est Jefferson Airplane, c'est 2001
c'est
Odyssée de l'espace,
c'est
Air.
C'est Air qui arrive.
Air,
et,
la déjà, Off-Broadway.
Off-Broadway.
Et puis l'année suivante, elle débarque dans Broadway et elle est reprise en France avec Gérard Lenormand et Julien Clerc.
Si je vous demandais à tous les deux de choisir une photo pour un moment, vous choisiriez lequel dans cette énorme somme?
Je pense en France, mais je choisirais celle d'Annie Cohn-Bendit dont parlait Patrick tout à l'heure. C'est-à-dire l'insolence. Cohn-Bendit a incarné 68 parce qu'il avait une capacité d'interpellation, d'insolence qui d'une certaine manière résume les événements de 68. Il y avait une grande insolence, il y avait beaucoup d'interpellations. Elle est entièrement dans cette photo de Gilles Caron.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette photo, elle a été prise par d'autres photographes. Il n'y en a qu'un qui a saisi cet instant magique dont parlait Cartier-Bresson par ailleurs, parce que à un dixième de seconde près, le moment où il nargue, il est en train de narguer, c'est pas le même sur la photo d'à côté.
Voilà, et puis il y a cette fameuse photo, parce que je tombe dessus par hasard, la fameuse photo des Jeux de Mexico avec le poing levé. Est-ce que vous savez pourquoi ils n' ont qu'un gant chacun
C'est l'uniforme des Black Panthers. L'uniforme des Black Panthers, c'est le gant noir, les chaussettes noires.
Oui, mais les deux gants noirs. Et savez-vous pourquoi ils n'en ont qu'un? Eh bien, parce que Carlos, autant que je sache, avait oublié ses gants, et c'est l'autre qui lui a prêté les siens, et donc c'était
Smith
un chacun.
C'est Carlos.
À quoi tient l'histoire, quand même? Merci beaucoup, merci mille fois à tous les deux,
Serge
Lee et Patrick Maé. Ça s'appelle 68, année choc. On aura l'occasion de reparler de cette année dans Un jour dans le monde, forcément, les 50 ans de l'année 68. En tout cas, énorme somme, magnifique photo. Et merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde sous les radars avec Florence Paracuelos qui sonne peut-être la fin du Bitcoin, on verra ça ensemble. Le Maroc en reportage où les mères célibataires sont laissées à la rue. Les médias en 360 degrés sur la planète, Alexandra Akoun, notamment des nouvelles d'Obama peut-être.
Ah ben oui, avec une interview événement qui arrive demain face à David Letterman qui a quand même animé pendant plus de 20 ans un show sur CBS, hein, le fameux Late Show de David Letterman. Et pas n'importe où, s'il vous plaît, sur Netflix.
Merci beaucoup Alexandra tout à l'heure. L'édito du journal Le Monde, ce sera à la fin aussi. Holly Cook, Angel Fire. Angel Fire sur France Inter. Florence Paracuelos est là.
France Inter.
Good evening and welcome.
Grazie mille, capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence, avec l'actualité internationale passée sous les radars. On va pas très loin pour commencer, Florence. Nous allons en Belgique, où un ministre est sur la sellette.
C'est le secrétaire d'État à la migration, Théo Franken, le Trump flamand, comme l'appelle le New York Times. L'opposition au Parlement a réclamé sa démission aujourd'hui, après des semaines de polémiques. Et on ose à peine projeter, Fabienne, ce que ça aurait pu donner en France. Imaginez, le ministre de l'Intérieur invitant les autorités du Soudan à venir désigner des migrants soudanais à renvoyer chez eux. Retour à Khartoum pour ceux qui n'ont pas fait la demande d'asile en Belgique, parce que souvent ils sont sur la route de la Grande-Bretagne. Et c'est ce qu'a fait Théo Franken, expulsant des Soudanais qui auraient été arrêtés et torturés à leur arrivée. C'est une ONG qui l'affirme, et ça n'est pas tellement étonnant dans cette dictature d'Afrique de l'Est. Les appels à la démission se multiplient depuis, d'autant plus que le ministre savait ce qu'attendaient les Soudanais. C'était écrit dans une note du commissariat général aux réfugiés et apatrides.
On sait que Théo Franken a pris la décision de maintenir les refoulements et les expulsions de Soudanais vers le Soudan alors qu'il y avait des risques pour leur vie et leur intégrité physique. Théo Franken l'a quand même fait. Toutes ces preuves existent. Désormais, on attend un geste du Premier ministre.
Alors ça, c'est un député écolo qui en appelle donc au Premier ministre Charles Michel. Des artistes sont aussi très remontés, comme les frères Dardenne, les cinéastes qui ont publié une tribune la semaine dernière et qui demandent à Charles Michel de prendre ses responsabilités.
Pour moi, c'est un vrai test. Oui. Parce que ça veut dire qu'il aura été capable de faire passer le respect des droits de l'homme et du citoyen avant la crainte d'une défaite électorale.
Voilà, Luc Dardenne, interviewé par la RTBF. Mais Charles Michel n'a pas l'intention de faire partir son ministre. D'abord parce que c'est l'homme le politique le plus populaire de Flandre. Ensuite, parce que son parti nationaliste, l'Alliance néo-flamande, est une composante de sa coalition et qu'elle a prévenu, si Théo Franken s'en va, c'est tout le parti qui quitte le gouvernement. Seule conséquence de cet épisode, pour l'instant, les expulsions de Soudanais sont suspendues.
Direction l'Algérie, Florence maintenant. Là-bas, c'est la colère des blouses blanches qui ne retombe pas.
Ça fait 2 mois que les médecins résidents sont en grève partout dans le pays. Les médecins résidents sont les internes en cours de spécialisation. Ils sont 13 000 en Algérie. Ils réclament massivement l'abrogation du service civil. 2 à 4 ans à travailler dans des hôpitaux disséminés dans tout le pays, régions reculées comprises. C'est le ministère qui les nomme à la fin de leurs études et c'est obligatoire. Alors ils manifestent régulièrement, pas à Alger où c'est interdit. La semaine dernière, ceux qui ont essayé de le faire se sont fait tabasser par la police. Mais à Oran, Constantine, ou ici à Annaba. La santé en détresse, les jeunes médecins aussi. Imaginez, après le bac, 7 ans de médecine, 4 ans de spécialisation, encore 4 ans de service civil, sans compter l'année obligatoire de service militaire. Obligatoire, y compris pour les médecins, ça les mène facilement jusqu'à 35-37 ans avant de pouvoir exercer librement. Alors, ils réclament pas forcément la fin de ce service civil, mais la fin de son caractère obligatoire. Il faudrait des incitations, disent-ils. Il faudrait surtout que les hôpitaux du sud et des hauts plateaux en Algérie ne soient pas si démunis en personnel et en matériel. Ils demandent enfin le regroupement familial pour les couples de jeunes médecins. Sans cela, comment s'étonner de la fuite massive des cerveaux? Plus de 9000 médecins algériens exerçaient l'année dernière en France.
Enfin, Florence, est-ce que c'est le début de la fin du Bitcoin, dites-moi?
C'est la question qu'on peut se poser avec la chute des cours de cette monnaie virtuelle qui a atteint des sommets en fin d'année. Il y a de la dégringolade dans l'air, si bien qu'en Corée du Sud, pays le plus accro au Bitcoin, les autorités s'apprêtent à interdire les plateformes d'échange de monnaie cryptographique. Si la bulle éclate, ça va avoir un effet dévastateur, explique un ministre. Un cinquième des échanges mondiaux en Bitcoin se font en Corée du Sud et cette annonce aujourd'hui a fait plonger les cours de 20%. Un Bitcoin, à l'heure où je vous parle, égale 11 400 dollars. Le début de la fin. On peut peut-être aussi le sentir au Japon, où un girl band absolument pathétique du nom de Kasutsuka Socho, les filles du Bitcoin, vient de se former. 8 filles en robe de soubrette, en grosses chaussettes. Chacune représente une monnaie virtuelle, parce qu'il y en a plusieurs. Mmh. Et en guise de production, cette chanson à la gloire de l'argent impalpable. Mmh.
J'ai l'impression que ça vous plaît, Fabienne.
Ça me plaît beaucoup. Vous savez, les Japonais, visiblement, ont ce groupe un peu bizarre. Nous, on a Nabila pour vanter le Bitcoin. Donc, en même temps,
chacun son truc.
Chacun voilà. son truc. Vous avez vu que Warren Buffett, par ailleurs, aux États-Unis, a dit moi, j'y touche pas.
Ah oui, oui. Et puis, il y a même une conférence qui est organisée à Miami, une conférence sur le Bitcoin qui, à l'instant, vient de refuser tout paiement de tickets en Bitcoin. Ils veulent plus en parler alors qu'ils font une conférence précisément sur le Bitcoin.
Eh ben, écoutez,
ce qui est quand même très mauvais signe.
Allez, changez les vôtres voilà. immédiatement. Allez, merci Florence, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est au Maroc que le reportage d'Un jour dans le monde nous emmène ce soir.
Salam alaikum. Là, c'est la garderie.
Salam alaikum.
Et c'est dans une nurserie que nous sommes, comme vous pouvez l'entendre, une nurserie du Maroc, donc où les abandons d'enfants sont très nombreux. Il n'y a pas de chiffre officiel récent, mais en 2013, le ministère de la Justice avait comptabilisé plus de 5000 cas d'abandon. La plupart du temps, il s'agit d'enfants conçus hors mariage et les mères célibataires sont très mal vues au Maroc. Si le code de la famille réformé en 2004 permet à certains enfants d'avoir une existence légale, l'absence du père sur l'acte de naissance est un handicap qui poursuit ces enfants toute leur vie. Bonsoir Stéphanie Wenger.
Bonsoir.
Depuis des années, Stéphanie, une association vient en aide à ces mères et leurs bébés. À l'origine de cette action, il y a le combat d'une femme. Elle s'appelle Aïcha Eschema et on écoute votre reportage à Casablanca.
Dans cette banlieue industrielle de Casablanca, ce restaurant n'est pas comme les autres. Ce n'est pas sa cour arborée ou le menu qui font la différence, mais en cuisine, en salle, toutes les employées sont des femmes. Leur point commun, elles sont tombées enceintes sans être mariées et ont dû quitter leur famille, parfois du jour au lendemain. Le service est terminé, Widad fait la caisse aujourd'hui.
Voici ce que m'a dit ma famille. Tu dois abandonner ton bébé et si tu veux revenir à la maison et vivre avec nous. Tu laisses ta fille. Tu peux la donner à une famille et comme ça, tu reviens à la maison. Mais sans le bébé. On ne veut pas d'elle. Aujourd'hui, je parle encore à ma mère, mais mon père, il refuse carrément de me parler.
Widad a quitté sa ville à des centaines de kilomètres de Casa et cessé ses études. Nour, sa fille, a aujourd'hui 1 an. Selon ses papiers, elle n'a pas de père. Pour l'instant, celui-ci ne veut pas entendre parler d'elle, encore moins la reconnaître. À 77 ans et presque 60 d'engagement sur le terrain, des histoires comme celle-ci, Aïcha Eschema en a entendu des milliers. Pour venir en aide à ces femmes, elle a créé l'association Solidarité Féminine. L'idée, leur offrir un travail, leur permettre de commencer une nouvelle vie. En plus de 2 restaurants, l'association a construit un hammam. Pour ces mères célibataires, l'enjeu n'est pas seulement matériel. Aïcha Eschema.
Et puis il y a une chose aussi, avoir une estime de soi, il a fallu faire un travail pour leur apprendre à se dire « Moi, je suis maman, j'existe, je lève la tête, je vais élever mon enfant avec fierté, je n'ai pas à avoir honte de moi. Au contraire, c'est une chance pour moi d'avoir gardé mon enfant. » C'est un très long travail.
Bon appétit.
Il est 13h, c'est le coup de feu au restaurant de Casablanca. Jamel, 34 ans, travaille dans une agence de pub juste à côté, c'est un habitué. Il est venu déjeuner avec ses collègues, d'abord parce qu'ils apprécient beaucoup la cuisine, mais il y a plus que cela.
Et le bonus, c'est que c'est pour la bonne cause, donc on est ravis de venir quasiment tous les jours. Et du coup, on est content de les aider à notre manière. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'elles participent, c'est pas juste de l'aumône ou du transfert de fond, c'est qu'elles sont actives et elles se donnent vraiment à cœur et on voit tous les jours qu'elles sont contentes de travailler, en fait. Et c'est ce qui nous rend heureux, quoi.
La journée, pendant que les mamans travaillent, les bébés sont gardés sur place. La sieste est finie. Ce qui marche déjà court vers Wahiba, l'assistante sociale. Nour, la petite fille de Widad, a très envie d'aller faire un tour dehors. Dans leur lit, 2 jumeaux ouvrent de grands yeux et sourient. Mariem, la maman, sourit aussi. Elle a reçu une très bonne nouvelle hier.
Ils ont 4 mois. Il y en a un qui s'appelle Oussem et l'autre c'est Mohsen. La personne avec qui je suis, leur père, il m'a appelé pour me dire qu'il veut reconnaître ses fils. Et je suis heureuse qu'il veuille faire des papiers à mes enfants. Dieu soit loué.
La mère de Mariem l'a soutenue, mais c'est son frère qui l'a mise dehors, pour éviter le scandale. Les tabous des enfants sans père, du sexe hors mariage, sont encore très forts au Maroc.
J'aimerais que les choses puissent s'arranger avec cet homme. En effet, beaucoup de gens ont parlé, dit des choses très négatives. Beaucoup. Et je leur en veux un peu, oui. Maintenant, je demande à Dieu qu'il me pardonne et me facilite les choses.
Aïcha Ishena, la fondatrice, est une militante respectée. Elle sait qu'elle est soutenue jusqu'au Palais Royal. Pourtant, elle a aussi été la cible d'attaques dans les médias, dans des mosquées. On l'a traitée d'icône de la débauche, accusée d'encourager la prostitution. Aujourd'hui, elle s'en moque. Ce qui la révolte, c'est qu'après toutes ces années, la situation de ces jeunes filles n'a pas évolué.
Écoutez, nous sommes en 2017. Aujourd'hui, en 2017, même les filles d'université se retrouvent dans la rue si elles sont enceintes. C'est aussi un message que je lance à la société marocaine, parce que je veux que la société marocaine change par elle-même, et aux politiciens qui, eux, font les politiques sociales dans notre pays. Ils doivent se mettre en tête qu'ils seront obligés un jour ou l'autre de passer par l'éducation sexuelle.
Alors que je m'apprête à partir, Wahiba, l'assistante sociale, tient à me raconter une histoire, la sienne. Si elle connaît bien la situation de ces femmes, c'est qu'elle a été l'une d'entre elles il y a 20 ans de cela.
Et à chaque fois, j'essaie de transmettre ce message à ces mères-là, essayer d'être force, ne pas reculer, essayer toujours d'aller en avance, parce qu'un de ces jours, ces enfants vont être des jeunes et ils vont être fiers de vous parce que vous avez eu la force de les élever, même malgré la mentalité des gens qui vous entourent. Et du coup, j'essaie toujours de transmettre la force que j'avais pour élever ma fille. Maintenant, ma fille, elle a 20 ans. Il a un bac plus 2, il a un diplôme de gestion d'entreprise, elle prépare sa licence professionnelle. Je suis fière d'elle et je suis fière de moi aussi.
Stéphanie Wenger dans Un jour dans le monde sur France Inter. La chanson s'appelle Taxman. Les scarabées avec un nom pareil y perceront jamais. One for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Et les Beatles sur France Inter.
BBC News, Jazeera, CBS Morning News,
France Inter, Public Broadcasting, le 18-20,
equals more reasons to watch.
Un jour dans le monde.
L'actualité média en 360 autour de la planète. Alexandra Akoun, on commence avec le fake de la semaine, comme d'habitude.
Et qui nous vient aux surprises des États-Unis. Un message posté sur Facebook en fin de semaine dernière et qui disait à peu près ceci. Chanel Rivers, employé noir du Starbucks de Brookhaven, crache dans les cafés, dilue des excréments de chiens dans le chocolat des enfants, mélange du sang à la confiture des clients blancs. Voilà qui a bien failli créer une émeute dans cette banlieue nord d'Atlanta. Dimanche soir, la police a même dû intervenir, craignant pour la sécurité des employés qui avaient reçu bon nombre d'appels menaçants. Rien de vrai, pourtant, dans ce message qui s'est répandu comme une traînée de poudre, hein, vraiment sur les réseaux sociaux. Pas même le nom de la soi-disant employée de Starbucks était vrai. Gros malaise, en tout cas du côté de la direction de la marque, qui a multiplié les communiqués de presse pour dénoncer un fake. Pour le Washington Post, en tout cas, voilà qui illustre à merveille le casse-tête de plus en plus prenant pour les autorités. Ces fausses accusations qui deviennent virales sur Internet et qui ont de potentielles répercussions dramatiques dans la vraie vie. Une enquête a été ouverte.
Alexandra, vous voulez nous emmener en Birmanie où des journalistes enquêtaient sur la répression des Rohingyas. Ils sont de l'agence de presse Reuters et ils risquent plusieurs années de prison.
Oui, ces deux journalistes ont été arrêtés il y a un mois en leur possession des documents sur les opérations de l'armée dans l'état d'Arakan, où un Charnia étaient découverts des cadavres de Rohingyas. Depuis hier, les deux journalistes sont poursuivis pour atteinte au secret de l'État. Ils risquent jusqu'à 14 ans de prison.
Et puis un autre pays où il ne fait pas bon être journaliste, c'est la Turquie.
On vous en parle régulièrement dans cette émission. La Turquie est devenue en moins de 2 ans la plus grande prison pour les journalistes. Alors en ce début d'année, 14 personnalités françaises des médias, dont Plantu, Élise Lucet, Bernard Pivot, vous, Fabienne, vous êtes mobilisés tous pour envoyer leurs vœux aux journalistes turcs, des vœux publiés en France sur le site de l'Obs et en Turquie dans le grand quotidien d'opposition Cumhuriyet, l'un des derniers encore debout.
Voilà, merci d'en parler Alexandra. Moi je le dis, je marraine une jeune femme qui s'appelle Zehra Dogan. Elle a 28 ans, elle écrit, elle s'exprime aussi par la peinture. On est content de pouvoir en parler et même la saluer si elle ne peut pas nous entendre, évidemment. En Grande-Bretagne, le cas Carrie Gracie fait le buzz.
Oui,
toujours.
Vous savez, Carrie Gracie, c'est cette journaliste qui a démissionné de son poste de responsable du bureau de la BBC en Chine pour protester contre les inégalités salariales hommes-femmes à la British Broadcasting Company. Florence Paracoulos, vous nous en a parlé
absolument,
lundi
en début
soir.
De semaine, oui.
Eh bien, gros buzz depuis sur les réseaux sociaux. Sa lettre ouverte aux auditeurs et aux téléspectateurs de la BBC, accompagnée du hashtag I stand with Carrie, debout avec Carrie, a été retweeté plus de 30 000 fois. Il se trouve que mardi, j'étais à Londres avec la ministre de la Culture pour visiter justement la BBC. Occasion trop belle de recueillir quelques réactions sur le sujet. Et la surprise, une seule journaliste de la BBC Afrique a bien voulu me répondre et vous allez entendre comment elle est à l'aise.
Je pense que enfin, c'est une décision très personnelle, donc on n'en a pas encore discuté. C'est vrai que c'est une grosse histoire, mais c'est public. Ce que je peux dire, c'est que c'est brave.
Les autres, voilà. Je vous le dis carrément, ont pris leurs jambes à leur cou devant mon micro. Quant à Carrie Gracie, elle n'a pas pour autant quitté la BBC.
It's 6 o'clock on Thursday the 11th of January. This is Today with Nick Robinson and Carrie Gracie. Now, let's take a look at this morning's papers and news.
Et voilà, depuis ce matin, 6h, elle co-présente la matinale sur BBC 4 Radio. Et dans un tweet posté en partant au travail à 3h30 du matin, la journaliste a salué cette belle maison quand même où l'on peut publiquement critiquer les pratiques de la direction sans se faire virer.
Mais donc, elle n'a pas dit si elle s'était fait augmenter, pour le coup.
Pas du tout.
Voilà, ou pas pour l'instant. On termine avec l'événement de demain, Alexandra. Première grande interview de Barack Obama depuis qu'il a quitté la Maison Blanche.
Triple événement en réalité, puisque cette interview sera menée par David Letterman qui a animé pendant 22 ans le Late Show de CBS et qui signe là son grand retour lui aussi et pas n'importe où, sur Netflix, bande-annonce.
You never know when you might learn something and that's what this is about for me. These are people that I admire. Please welcome my next guest.
I have dad moves.
Yeah.
And I think the key is what we call staying in the pocket.
Sure.
Right?
I had a show for a long time.
Alors le titre de l'émission, My Next Guest Needs No Introduction, mon prochain invité n'a pas besoin d'être présenté, et là c'est vraiment carrément le cas. Énorme coup pour la plateforme de streaming qui en dit long, vraiment, sur le changement en cours dans l'industrie des médias. Et pour Obama, une façon bien maligne de se placer au-dessus de la mêlée tout en touchant un énorme public. Je vous rappelle Fabienne que Netflix, c'est 109 millions d'abonnés dans plus de 190 pays, carton planétaire. Assuré.
Oui, carton planétaire et la suite des invités. J'en parlais avec Grégory Phillips, tiens, à Washington cet après-midi. Vous savez qui c'est? Malala, Jay-Z, George Clooney. Enfin, voilà, il y aura du beau monde dans cette émission-là sur Netflix. Donc merci, Alexandra. On se retrouve la semaine prochaine. Corinne Lannella, depuis San Francisco. L'édito du journal Le Monde avec vous. Corinne, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Corinne, entre la Californie et le gouvernement fédéral, c'est l'escalade apparemment. Le Golden State se sent particulièrement visé par des mesures récentes prises par l'administration Trump avec un horrible soupçon qu'il s'agisse en fait de représailles contre un État qui a pris la tête de la résistance au président républicain.
Oui, c'est un petit air de paranoïa qui s'est développé ici. En effet, un an après l'élection de Donald Trump, les Californiens se sentent visés. Leur mode de vie distille est attaqué. Exemple, la légalisation de la marijuana. Les ventes de cannabis récréatif ont commencé le 1er janvier. 3 jours après, le ministre de la Justice abrogeait la circulaire de Barack Obama qui avait permis aux États de mettre en place un marché réglementé et taxé, bien que la marijuana reste illégale sur le plan fédéral. De quoi refroidir les banques et les investisseurs, même si ça n'a pas découragé les ventes, au contraire. Autre mesure qui provoque un tollé, l'autorisation des forages pétroliers offshore. C'est un non-non, comme on dit, en Californie, aussi bien chez les démocrates que les républicains, depuis la grande marée noire de 69 au large de Santa Barbara. Tous les gouverneurs de la côte ouest sont contre les forages. Le gouverneur de Floride aussi, mais lui est un républicain. Mardi, le ministre de l'Intérieur a annoncé que les eaux territoriales y seraient exemptées de forage. La Floride est unique, a-t-il dit, comme s'il y avait des favoris dans le fédéralisme américain. Et puis, il y a aussi le fait que Donald Trump n'est pas encore venu en Californie. C'est la première fois qu'un président ne visite pas l'État le plus peuplé pendant la première année de son mandat. Non pas qu'il serait bien accueilli, vous vous en doutez, mais la presse remarque qu'il n'a même pas séjourné sur son golf de la région de Los Angeles.
Alors, plus sérieux quand même sur le même sujet, la réforme fiscale adoptée fin décembre par le Congrès.
Oui, là, c'est la guerre. Le gouverneur Jerry Brown l'a qualifié de monstruosité et de mesure visant à punir la Californie pour avoir voté Hillary. Le plan supprime un certain nombre de déductions fiscales. Les contribuables ne pourront plus soustraire la totalité de leurs impôts locaux dans le calcul de leur impôt fédéral. Le plafond était fixé à 10 000 $. Dans les États riches qui ont des taux d'imposition élevés, les répercussions risquent d'être importantes, comme par hasard ce sont des États démocrates, New York et la Californie, où les taxes locales, 13%, sont les plus élevées du pays. Plus de 6 millions de Californiens vont être pénalisés, soit un contribuable sur trois. Et à quoi s'ajoute encore une mesure qui a été jugée particulièrement mesquine, la suppression des déductions fiscales pour les propriétés détruites par les catastrophes naturelles, dont les incendies. Or, la Californie, vous le savez, compte des milliers de départs de feu chaque année.
Mais enfin, Corinne, la Californie n'est peut-être pas complètement paranoïaque, parce qu'il semble que les Républicains assument leurs décisions, non ?
Oui, les Républicains ne s'en cachent pas, c'est une revanche. Ils sont persuadés que les contribuables californiens vont prendre conscience du poids des taxes locales et faire pression sur leurs élus démocrates pour réduire les programmes de protection sociale ou de l'environnement. Comme disent les militants du Tea Party, la Californie ne pourra plus faire subventionner ses immigrants clandestins et ses programmes d'assistanat par le reste du pays.
Merci beaucoup Corinne Laine du journal Le Monde en direct avec nous dans Un jour dans le monde. La suite, c'est Sébastien Paour pour le journal et puis le téléphone sonne bien sûr.